par un. Si c'est un par un, en hébreu c'est Echad ou Achat. Il fallait marquer Ma'avir Echad Echad. Il enlève un par un, Ma'avir Echad Echad. Le texte dit Ma'avir Rishon Rishon. Rishon c'est un.
Premier.
Rishon c'est premier. Ma'avir Rishon Rishon. Il enlève le premier et le premier. Pourquoi il enlève deux fois le premier? Ça suffit d'enlever une fois le premier. On enlève le premier et le deuxième devient le premier. Et après, il enlève de nouveau le premier. Et après, c'est le troisième qui vient le premier. Alors, il enlève de nouveau le premier. Et pourquoi il enlève le premier premier? Il n'a qu'à enlever le dernier dernier. Ou le milieu-milieu, ou au pif. Et puis là, son Averot. Le bon Dieu veut pardonner. Il peut enlever tout d'un coup. Il n'est pas marqué qu'il enlève tout d'un coup. Marqué, ma vie, Rishon, Rishon, c'est-à-dire, on n'enlève pas tout le paquet d'Averot d'un coup. Un par un, comme il dit. Alors, un par un. On peut commencer au milieu, ou à deux tiers, ou à un tiers, ou à la fin, ou... Non. Ma'avir Rishon, Rishon. Ça veut dire quoi?
La plus grave.
La plus grave. Il enlève la plus grave. Alors il faut marquer Ma'avir Gadol, Gadol. La plus grande. Achi Gadol. Ma'avir Achi Gadol.
La première, on pardonne toujours.
Quoi?
La première fois, on pardonne toujours.
Quoi?
Quand c'est la première fois, on excuse toujours, on pardonne toujours.
Quoi?
Quand on fait une faute pour la première fois, toujours c'est pardonner la première fois, c'est toujours excuser. C'est quand c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on commence à dire « Ah, c'est grave ce que tu fais. »
Ah.
On punit pour la troisième fois, pas pour la première.
La première faute chez l'homme, il est en pardon plus facilement. Première fois, tu fais un gaffe, tu vas à l'école, première fois un gaffe, alors la prof il dit « Bon, tu n'as pas amené les devoirs. » Bon, ça va, bon, alors, la première fois, je ferme un œil. Deuxième fois, troisième fois, Et pourquoi la première fois, on pardonne plus facilement?
Parce que la vera, elle n'est pas ancrée dans la personne. Tu peux faire tes choix et arrêter.
Elle n'est pas craignante.
Pourquoi le prof, il pardonne plus facilement la première gaffe à l'élève?
Ça peut être une inadvertance.
Quoi?
Ça peut être une inadvertance.
C'est fait par inadvertance. Pourquoi la première s'est fait plus que par inadvertance que la deuxième, troisième?
On ne sait pas sur quoi on est attendu.
Hein?
On ne sait pas sur quoi on est attendu.
Quand on ne sait pas au début sur quoi. Qu'est-ce que le prof vraiment il attend? Au début de l'année, il donne toute une Megillah avec 75 trucs qu'il faut bénir avec des chaussures comme ça. Et il faut arranger les cahiers et les livres. Il faut venir à l'heure. Il ne faut pas venir saler, brosser les dents et parler gentil. Tout un truc, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Bon, je ne sais pas. On va commencer l'école. Alors, il fait en première gaffe. Il vient avec une chemise, avec une grosse tache. Et on ne vient pas comme ça. Ah bon, excusez-moi. Oui, bon, d'accord. Alors, je sais qu'il ne faut pas venir une chemise sale. Après, on parle au milieu de la classe. Quoi, c'est assourd de parler, mais c'est marqué dans le règlement, on parle en classe. Ah oui, excusez-moi, monsieur. Oui, bon, d'accord, alors, d'accord, ah bon, ah, il ne faut pas parler en classe, bon, d'accord. Après, quand on parle deuxième, troisième fois, là, tu deviens amazing. C'est-à-dire, au début, on a une espèce de choc-egg. Et après le prof, il te rappelle à l'ordre. Après, on continue, on devient amazite, quoi.
Là, on veut parler de la même faute. On dit à Richard, Richard. La même faute que le type refait après.
Oui, il vient encore une fois avec la chemise tachetée. Un troisième jour encore, un quatrième jour encore. Et chaque jour, on parle. Le prof dit monsieur, ça fait trois fois que je vous dis de ne pas parler en classe. Quand tu parles en quatrième fois. Bon, là, monsieur, non, c'est sérieux. Alors, au début, c'est une espèce de choc-egg. Après, on tombe dans une espèce de mésite. Bon, maintenant, arrive Kippour. Bon, il arrive avec tout un paquet. Alors, il demande à Hachem Mechila. Alors Hachem, il dit, bon, d'accord. Tu demandes Mechila, on va enlever. Qu'est-ce qu'il enlève d'abord? Le premier péché. Pourquoi il enlève d'abord le premier? Pourquoi il enlève pas le dernier?
Commence par le début.
On commence par le début, pourquoi on commence pas par la fin?
C'est le premier qui a entraîné les autres. C'est...
Le premier, il a entraîné les autres.
C'est les fondations.
On a fait en sorte que la personne continue dans sa route.
La première fois, il a parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de parler. Et la deuxième fois, il a parlé. Parce qu'il avait envie de parler. Et la troisième fois, il a parlé. Parce qu'il a envie de parler. Et pourquoi la première faute a entraîné la deuxième? Pourquoi il a parlé la première fois en classe? Parce qu'il a envie. Pourquoi il a parlé la deuxième fois? Parce qu'il a envie. Pourquoi il a parlé la troisième fois? Parce qu'il a envie. C'est pas la première qui a entraîné la deuxième. La première, la même raison qui a amené la première, elle a amené la troisième. Pourquoi c'est plus facile? Pourquoi il demande pardon au prof? Le prof d'abord il enlève la première fois. Pourquoi il commence à enlever la première fois?
Comme Amalek.
Comme il a dit Moshé.
Amalek, c'est ce premier qui a osé. Donc la première fois osée, c'est la plus grave. Peut-être que
c'est la plus grave. Alors tu es sur un autre continent, tu n'es pas sur le même continent que nous avons dit jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a 3 minutes, on a dit que la première fois, c'est un espèce de shogeg. Alors toi, tu es dans une autre philosophie. La première fois, c'est la pire.
C'est la permission, ça dépend ce qu'il a en tête.
Si elle est
visible,
alors oui, c'est grave.
Une sorte de miséricorde.
Quoi?
La miséricorde.
Quoi?
Au début, on est plus. Il y a la miséricorde, après, il y a le dîme.
Le prof, au début, il est miséricordieux, et après, il y a le dîme. Pourquoi? Pourquoi au début, le prof, il est plus souple qu'après?
C'est une chance. Il laisse une chance.
On laisse une chance. Mais quand c'est répétitif, il faut arrêter. Donc, tu es dans la philosophie, qu'au début, c'est plus facile. Maintenant, une fois que le type, il a fait 50 péchés. Et maintenant, il demande pardon. Alors, à Kadivok, on n'enlève pas tous les paquets d'un coup. Il enlève un par un. Pourquoi il n'enlève pas tout d'un coup? On ne peut pas enlever tout d'un coup. Il enlève le premier. Et le deuxième devient le premier. Il enlève le premier. Le troisième est le premier, il enlève. Le quatrième est le premier, il enlève. Alors, il enlève tout. Alors, en deux mots, il a enlevé tout d'un coup. Alors, quand cette technique-là de Marvin Rishon Rishon?
Faire taire le Satan.
Quoi?
Faire taire le Satan. Si c'est Stam, il enlève tout. Alors, le Satan, il va dire, ah, c'est facile, privilégié. Mais si... Il joue comme ça. Mais Stam, c'est une réponse qui est
fou. Je peux vous donner une image, vous me dites si ça peut être bon ou pas.
Alors, attendez, le peintre, il va nous faire une image, oui.
Je vois une image, c'est comme la Vera, c'est une barrière, et là, vous avez un train qui passe. Et vous avez la locomotive qui passe en premier, qui casse la barrière. La locomotive, c'est ça qui déclenche pour la première fois la Vera. Et après, le train, il passe. Donc, vous avez le premier wagon, le deuxième wagon, le premier donc deuxième fois, troisième fois, dixième fois, quinzième fois. Donc, c'est la même Avera qui se répète quand c'est le train, il s'enchaîne en passant. Et quand HM, maintenant, il retire un après l'autre, ça veut dire qu'il fait demi-tour du train. Le train, il fait marche arrière. Et là, un à un... Au fur et à mesure, les Averroth, elles se...
C'est le dernier qui rentre.
C'est le dernier
qui rentre.
Quoi, c'est le dernier?
C'est le dernier. Quand tu fais rentrer le train.
Bah oui, c'est ça,
Rishon,
chacun...
Si on est dans les images, je vais aussi faire une image. On est peintre, alors autant d'utiliser les peintures. Un homme, il a volé un diamant, une perle. Et le lendemain aussi, il a volé. Il a volé 50 cents. Chaque jour, il a volé une perle. Il avait peur que les perles, ils vont se perdre. Alors, il a fait un trou dans chaque perle. Il a fait passer un fil. Et comme ça, ça se tient. Et après, il l'a mis dans son coffre-fort. La chaîne des perles. Il a bien fermé à clé et tout. elle est bien enfermée. Et après, il dit, il faut que je fasse teshuva. C'est pas joli d'avoir volé 50 perles. Il faut que je fasse teshuva, mais il ne trouve plus la clé. Il ne trouve pas la clé. Il ne sait pas comment ouvrir. Alors, il avait un Black & Decker. Après un Black & Decker, il fait un trou. Et après qu'il a fait un petit trou, elle se casse la mèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle a pris une pincette et il a tiré la chaîne. La comment on appelle?
La mèche.
Oui, de la perle sur un truc. Et le collier. Et il arrive, une perle, il est devant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le nœud. Oui. Alors la première perle va sortir. Et après, la deuxième prend la place de première, va sortir la troisième, et comme ça, un par un. Et pourquoi il ne prend pas toute la chaîne d'un coup? Il n'y a pas de place. Il y a la place qui est pour une. Alors je prends la première perle, et après la deuxième prend la place de la première, j'enlève. Avi Rishon Rishon, et comme ça. Alors quelle est la philosophie ici?
À chaque fois, ça, la première, après, revient la première, donc ça peut être tout le temps ça.
S'il oui.
Pas des mérites, c'est pour
tout. Juste des mérites. C'est quoi? C'est pourquoi la première? Pourquoi il faut enlever la première?
C'est plus facile d'enlever une que d'enlever le tout.
Alors la dernière.
Non, mais on a dit que d'après ce qu'on a dit, c'est que la première, c'est toujours la plus simple à pardonner, oui.
Parce qu'elle était faible et chogeg.
Voilà. Alors si à chaque fois, donc on enlève la première. Si la deuxième, elle devient première, donc on a tendance à vouloir aussi la part.
Mais si la première, elle est légère parce que c'est Béchogek, donc c'est plus facile à pardonner le péché Béchogek que Bémézit. Donc Dieu, il pardonne la première parce que c'est Béchogek. La deuxième, elle est un peu plus Bémézit. La troisième, encore plus Bémézit. Alors, comment la deuxième devient la première? Si la deuxième, elle était fait Bémézit et la première Béchogek, comment la deuxième devient...
Elle est toujours plus légère que la première. Parce que la première, elle n'existe plus. Comme si elle n'a pas eu lieu, on vient de l'effacer.
Oui, mais ça, c'est de la magie, là. La première, elle était faible sur Gek. La deuxième, un peu bémézite. La troisième, plus bémézite. La quatrième, encore plus bémézite. Maintenant, les types, ils demandent pardon. Alors, demander à Hachem, pardonne-moi le mézite, c'est difficile. Il dit, alors, pardonne-moi le shogek. Je me dis, bon, le shogek, je ferme l'œil. Bon, d'accord, on enlève le shogek. Et maintenant, le bonhomme dit, ah, tu vois, Dieu, la deuxième est devenue shogek. Ah, qu'est-ce que tu trafiques là? Comment la deuxième est devenue shogek? Parce que tu m'as enlevé le shogek. Oui, je te fais un cadeau, je t'ai enlevé le shogek. Et comment maintenant le mézi devient shogek?
Il dit qu'il efface toujours. Si on a des mérites, il efface.
Si
on a des
sangliotes, oui.
Lui, il efface.
Oui.
Donc, pour ça, c'est marqué Richon.
Il a assez de mérite pour enlever tous les 50 péchés?
S'il n'a pas, c'est...
Donc on parle qu'il a des, il a des mérites pour effacer les 50 péchés? Voilà. Alors il n'a qu'à enlever les 50 péchés. Pourquoi m'avait Richon?
C'est pas ça, c'est que...
Pourquoi? J'ai besoin d'un...
Parce que
la 3,
on s'arrange, on n'aurait pas du tout... Voilà, chiche, on a la
amenez-moi la rame.
Je crois que
Rambam,
il
a rame. On va voir comment il dit.
Justement, c'est pour ça qu'on dit Al-Kisser Rachamim. Miséricordieux, de considérer le deuxième comme le premier, même si c'est pas vraiment
mais, un premier. Oui, mais il faut un peu de
sens.
De
sens.
Alors, on peut l'air comme ça, le chat. Quand un homme veut faire un avira, et il cherche un heter. Comment on peut trouver un heter pour faire un avira? Ravuna. On demande Ravuna. Ravuna, il a un heter. Quand on veut transgresser la Torah. Quel est le heter de Ravuna?
Pour la faire trop facile.
Ama Ravuna, qui est ma sha'abar Adam Avira, le Shana, n'a selon que heter. quand un homme le fait un avéra une fois et deux fois, ça lui semble permis. Alors, il y a une logique de dire, la première fois quand on fait un avéra, alors on sait que c'est interdit. Il y a une logique qu'on lui dit, que c'est le pire. Avant que l'homme il a fait un avéra, la première fois, un homme il veut fumer la première cigarette Shabbat. Oulala, on ne peut pas fumer cigarette Shabbat. Pour la première fois, il veut manger chazir. Hein. Un juif, il n'a jamais mangé chazir. Et un jour, il décide de manger chazir. Alors, quand il mangera le premier morceau, presque il va s'étrangler. Je vais faire un avéra, c'est terrible. Mais une fois qu'il a fait, la deuxième fois, c'est déjà plus facile pour lui. Et la troisième, la millième fois, ça va automatique. Quand un homme il s'habitue de faire de l'avérot, il n'a plus aucun sensibilité. C'est pas seulement pour de l'avérot, c'est pour d'autres choses aussi. Je te dis la première fois, prends un altéro, un truc, monte 20 kilos. Vous connaissez les trucs là. Tu dis à un homme qui n'a jamais fait, vas-y fais. J'arrive pas. Vas-y, fais. Très difficile. Mais une fois qu'il a réussi la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile. Une troisième fois, c'est encore plus facile. Donc, on va dire, la première avéra qu'on fait, c'est difficile. Alors, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne d'abord la première. Pourquoi?
Celle qui a entraîné les autres.
Parce que, qu'est-ce que l'homme y regrette le plus? La première ou la dernière? Quand l'homme il réfléchit, il se rappelle la première fois que je mangeais le chazir. À l'époque, j'ai tremblé encore. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Mais remets-toi dans la situation du premier péché. À l'époque, tu as encore senti le cœur battait encore? Oui. La première fois, le cœur battait. Alors donc, tu te rappelles la première fois que le cœur battait quand tu as transgressé. Là, tu avais encore une sensibilité. Et là, tu regrettes. Oui, ça, je regrette. Et maintenant, alors, ça, tu regrettes. Hachem, il enlève ce péché. Et maintenant, une fois qu'on enlève ce péché, c'est-à-dire quand on enlève le péché, on enlève dans l'autre monde ou dans ce monde? On enlève le compte au ciel ou l'homme lui change? Hein? Au ciel. Comment dit Rabbi Akiva? Vous avez une Mishnah dans ma Maseret Yuma? Quelle est déjà la dernière Mishnah de ma Maseret Yuma? Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Lifnemi Atem Metarim. ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? אבא גלור מתאר את ישראל. ככוח, כלכפרה אמר כשם היא למתאר את ישראל. היא פוריפי. זה דרך כלל היא פוריפי. היא פוריפי כוח. לג'ויף. זה דרך כאבון לכפרה. היא לטיפה פיור. Il était sale. C'est-à-dire, l'homme qui pêche, il y a une crasse dans sa neshama. Elle est encrassée. Il y a des fois des carburateurs qui sont encrassés. Ça ne roule pas bien, c'est encrassé. On nettoie. La neshama, elles sont encrassées avec de la verrotte. On nettoie. Et quand Hachem, il aime Chaper, il aime Taher et Israël. Ça veut dire que la Kapara n'est pas seulement un compte au ciel, combien de Gan Eden ou pas, l'homme il aura. Mais que c'est sur terre, l'homme, des fois un cœur il est bouché. Des fois les veines sont bouchées. Qu'est-ce qu'on fait à un homme qui a un cœur bouché? On lui met un stent, comment ça s'appelle? On débouche. Après, le son, il passe mieux. Alors, La teshuvah, elle nettoie. Donc, il faut enlever d'abord quoi? Il faut enlever le premier péché, l'homme, il a peut-être oublié. Mais quand on arrive, la première fois que j'ai commencé ces bêtises, c'était... Première fois, ça m'est dérangé encore. Après, ça ne m'est dérangé plus. Alors, quand ça m'est dérangé, il enlève ça. Quand il enlève ça, qu'est-ce qu'il arrive chez l'homme? Le deuxième devient la première. Ça veut dire quoi? Maintenant, il va sentir le deuxième aussi. Donc, il pourra maintenant faire des choix pour la deuxième. Alors, on lui enlève. Maintenant, il va reprendre la sensibilité. Les gens qui sont paras,
lisez.
Qu'est-ce qui fait le kiné avec eux? Vous avez déjà parlé avec un kiné, un homme qui a perdu la sensibilité de sa main, il est paralysé ou il a une blessure ou quelque chose paralysé. Qu'est-ce qui fait le kiné au paralysé? Qu'est-ce qu'il fait?
Rééducation.
Rééducation. Qu'est-ce que c'est la rééducation? Il faut retrouver quoi? La sensibilité. On ne sent pas, on sent pas la main. Le type de parisien, il ne sent pas la main. Il faut lui faire retrouver la sensibilité pour pouvoir bouger la main. La rééducation, c'est apprendre aux muscles de nouveau agir, enlever le blocage du muscle qui le bloquait, retrouver une sensibilité. Quand on a péché beaucoup, on n'a plus de sensibilité pour ce sujet. Alors il faut retrouver la sensibilité. Donc il faut d'abord s'imaginer là où j'avais encore une sensibilité. Avant qu'on ait devenu un abruti. Comment il dit le Rambam sur Mahavir Rishon Rishon? Comment il interprète le Rambam? Bon, il y a ici Ramraï Vesha, Shechoklin, Avonot Adam, Yusruyotav. Quand on calcule les péchés avec les mérites, et Mechashin Alav Avon, Shechata, Botechila. Le premier péché, on ne compte pas. Vlosheini, pas le deuxième. Le premier et le deuxième, on ne compte pas. Et la Mishlishivela, c'est à partir du troisième. À partir du troisième, commence le compte. Si à partir du troisième il a plus de péché que de Sruyatam, Otam, j'te avonot, mitztarfim. Et si à partir du troisième il a plus de mitzot que d'avérot, ma'averin kol avonotav, rishon rishon. On enlève tous les péchés, rishon rishon. Parce que le troisième devient le premier. Alors, ce système il est marqué ici dans le Rambam. Mais dans ce cas-là, le Rambam il dit que le premier péché on ne compte pas. Si vraiment le premier péché, il avait la sensibilité, et quand même il a fait, dans ce cas-là, c'est le pire des péchés. Alors, on ne devrait pas mourir le pire.
D'un autre côté, d'un côté, il était plus sensible, donc il était plus fragile. Après, une fois qu'il est insensible et qu'il continue, c'est de la folie. C'est-à-dire, du coup, il est plus sensible, il continue, là, c'est carrément, il se rebelle contre Hachem.
Ça change rien.
Donc, le premier, il est moins grave.
C'est son etc., sensibilité, ça.
Il est pur.
Il est pur, et voilà.
Il est pur, là, parce qu'il a quand même fait. Après, il a l'habitude, donc après, il n'a pas le problème.
Mais il avait mal quand il a.
Il avait mal.
Donc c'est une avéra moins.
Parce que quand on fait une avéra, il a honte, ça pardonne déjà un peu. Kol haover avéra, v'mit bayesh, on lui pardonne. Donc la première fois, il avait honte.
Mais excuse-moi, il dit la première, la deuxième. Ah, mais il dit la première,
les chenichéli,
on
ne
comprend pas.
Quoi?
Ce que vous avez lu là.
Oui.
Il dit on lui enlève d'abord les chenichéli, non?
Monsieur, vous êtes un tamid chacham, vous savez lire. Alors, vous allez lire. Lisez, Mahavot. Tu montres où ça commence. D'accord, c'est là, tu vas dire. Alors quoi?
La première, il avait été sensible, ça le gênait. Alors donc, s'il réussit.
Continue.
On a donc Michelichi Baila, d'accord. Mais les deux premiers de toute la liste, là, de Richard Génon, on ne compte pas.
Au début,
voilà.
On regarde à partir de troisième, s'il y a Sruyot plus qu'Avonot.
C'est ça.
Plus
Avonot, et le premier, deuxième, on ne compte pas.
Et si.
Non, mais pourquoi,
à partir des troisièmes, il y a plus de Sruyot que d'Avonot, mais avec les premiers deux, il y a plus d'Avonot. Dans ce cas-là, il reçoit un cadeau qu'on enlève le premier d'eux. Et après, comment on enlève le reste? Parce que le troisième, il y en a le premier. Et le quatrième, il y en a le premier. Donc, il y a ce système. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire? Que parce que l'homme, la première, c'est moins grave parce que ça le gênait. Ou parce qu'il ne se connaissait pas encore. Peut-être la première fois, il est tombé dans le péché parce qu'il ne savait pas quel Yetzerara va l'attraper. On va revenir au premier. L'enfant, la première fois dans l'école, il parle la première fois. Il ne savait pas que ça avait énervé le prof. Il ne savait pas si vraiment c'est dangereux de parler. Ah, il a parlé la première fois. La première fois, on peut tomber dans le péché parce qu'on n'était pas... Je ne savais pas que ça marche comme ça quand on glisse ici, dans ce fleuve-là, on glisse comme ça. Je ne savais pas. Alors donc, quand j'ai fait Teshuvah, je me remets dans cette situation. J'ai dit, dans cette situation, j'aurais pas dû fauter. Une fois, j'ai parlé avec un psychiatre qui fait de la, comment on appelle ça, psychothérapie. Je lui demandais comment ça fonctionne la psychothérapie, comment ça peut guérir. Il dit, le bonhomme il raconte sa vie. Je lui dis, très bien, il raconte sa vie. Alors comment ça guérit? Comment ça guérit? Il dit, il revient en arrière. Nous, et alors? Alors il se remémorise certaines situations où il a fait une erreur. Et alors, ces moments, il a oublié. Du moment qu'il a oublié, imaginons-nous, il m'a expliqué comme ça, il y a un chemin. Je marche sur un chemin et j'arrive à un carrefour. Un chemin ici, un chemin ici. Et moi, je me dis, quelle route je prends? Moi, je suis à Paris, je dois arriver à Bessancourt, qu'est-ce que c'est moi, à Tombouctou. Bon, alors, il y a deux chemins, ou ici, ou ici. Je pense qu'il faut prendre la droite. Après la droite, en vérité, il fallait prendre à la gauche. Et on continue. Et après, je suis engagé à droite, et encore une fois, une bifurcation. Maintenant, j'aurais dû, pour réparer, prendre à la gauche. Et la première fois, j'ai décidé, droite et gauche, sûrement le truc c'est à droite. Quand c'est la prochaine bifurcation, je pense encore une fois, il faut prendre à droite. Et encore à droite. Et c'est là toujours plus et plus. Alors, il raconte ça. Ça veut dire, l'homme, il s'habitue à réfléchir et à agir d'une certaine manière. Et ça devient une espèce d'automatisme. Il y a des gens qui sont nerveux. Ils sont colériques. Ils sont hystériques. Ils font une histoire pour n'importe quoi. Et ils s'énervent, truc. Et chaque jour, ils s'énervent. Il y a des gens que tous les trois fois par jour, ils font une histoire. Et tu m'énerves, je casse la figure. Mais il y a bien une fois où ça a commencé. Il y a bien une fois où ça a commencé. Mais quand on s'habitue, alors ça c'est automatique comme ça. Alors, quand le type, il croit que c'est normal comment je fais, l'action que je fais maintenant s'appuie sur ce que j'ai fait hier. hier sur avant-hier. Et on a comme le sentiment un peu, mais c'est normal, me comporte normal. Tu vois, tu trouves un type qui s'énerve comme un malade. Je dis, mais il n'est pas normal ce gars. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Et pourquoi toi tu le remarques et lui le remarque pas? Parce que lui il le fait tous les jours. Et pour toi, mais il n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a? Il sort. Quand on est une faiblesse, on sort du normal. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on pensait qu'il faut choisir ça. On devrait choisir autrement. Au premier carrefour, on se trompait. Il y a un carrefour dans ta vie où il y avait deux chemins. Il fallait prendre l'autre chemin. Et tu as pris ce chemin. Et ça, il t'a amené après d'autres choses. Quand l'homme, il raconte sa vie, il y a ici, il y a ici. Ah, quand j'avais 4 ans, je me suis énervé à l'époque. J'ai frappé ma sœur parce qu'elle m'a enlevé la pomme. Et ma sœur s'est inclinée, elle m'a rendu la pomme. Et à ce moment-là, il ne fallait pas s'énerver contre la sœur. Mais lui, il a oublié. Il s'est habitué. À 4 ans, il a frappé sa sœur. Et après, il est devenu un frappeur toute sa vie. Il est devenu un frappeur jusqu'à tuer sa grand-mère. Et s'il aurait eu 3 grand-mères, il aurait tué 3 grand-mères. Mais on n'a que 2. Et ça a commencé parce qu'à 4 ans, il a frappé sa sœur quand elle a enlevé un jouet. Mais lui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut agir quand l'autre est énervé, il faut le frapper. Et ça, et quand le type il raconte, la première bouffure qu'il raconte, j'avais 4 ans. Ah oui, oui. Ma sœur m'a enlevé la pomme et mon frère m'a dit, vas-y, cognez-la. Ah bah, je la cognais. Ah, comme ça, il dit. Ah, mon frère m'a dit qu'il faut se frapper ma soeur. Et après, automatiquement, peut-être j'aurais pas dû frapper. C'est comme ça que commençait l'histoire. Et après, j'ai eu le geste. On enlève quelque chose, je frappe. Après toute la vie, quand on me marche sur les pieds, on s'énerve. Ça a commencé quand j'avais 4 ans. C'est la première fois. Il raconte comme ça la vie au psy. Ah oui, je me rappelle, j'avais 4 ans, ma soeur est venue, elle m'a enlevé. Et mon frère, il dit, vas-y, frappe-la, reprends. Ah oui, comme ça, il m'a raconté. Ah, ça, c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a truqué la tête. Après, j'ai devenu un frappeur. Et après, je demande à ce psy, comment il répare? Il dit, après, c'est tout seul. Il y a un nœud qui s'est défait. Comme j'ai dit, ça, c'est la philosophie, en tant qu'une partie de la philosophie. Il y a un nœud, on est attaché à un comportement tordu. Ce nœud, il s'est défait quand je sais comment il est devenu ce nœud. Quand je reviens, où était ce nœud-là, il s'est défait. Et après, automatiquement, tu n'as plus cette bifurcation. Après, il y a la deuxième bifurcation. Elle se dénoue aussi. Parce qu'en vérité, elle était basée ici. Ça revient et ça se dénoue. Et après, je peux recommencer ma vie nouveau, je suis libre.
Il n'y a pas de traces.
Hein?
Il
n'y
a pas de traces.
Est-ce qu'il y a des traces? Ça, il faut que je demande le psy. Je ne suis pas psy. Est-ce qu'il y a des traces? Peut-être qu'il y a des traces. En tout cas, c'est ça qui fait. Alors, peut-être ça, c'est l'ignan de Mahavir, Rishon, Rishon. On revient aux premières bifurcations que j'ai pris la mauvaise route et on prend une nouvelle route. Donc on peut revenir.
J'ai une petite question.
Voilà.
Quand on dit qu'on pardonne la première fois,
oui.
Mais c'est à condition qu'on a fait tchouva ou bien même c'est sans faire tchouva? Je parle pas de Kippour, hein. Je parle dans l'année, on a fait une première fois, une avéra. Puis une deuxième, puis une troisième. On dit on efface la première, mais à condition, voilà, parce que c'est à condition qu'on ait fait tchouva en attendant la deuxième.
Bon. Bonne question. Je sais pas. Bonne question, je ne sais pas. On va voir un autre point de Yom Kippour.
Vous étiez déjà Yom Kippour au Beit HaMikdash. Vous avez vu les deux boucs. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les deux boucs? On fait un tirage au sort. Vous êtes au courant? Alors, comment on fait le tirage au sort? On prend une urne. Et on marque deux papiers. Saïr la Azazel, Saïr la Hachem. On met dedans, on mélange bien. Il y a le Kohen Gadol. Il y a le Arbedin à droite, le Scan à droite, l'Arbedin à gauche, et il y a deux boucs devant lui. Après, le Kohen Gadol, il fait rentrer la main, il attrape avec les deux mains les deux papiers, et il les lève. Et le papier qui est dans la main droite, il met sur le bouc à droite. Gauche, met sur le bouc. Et il lit l'Hachem Khatat. Il pose ici. La Azazel, met ici. Mais parfois, le Hachem peut être dans la main droite, mais le Hachem peut être dans la main gauche. Hein? C'est ça le goral, ça tire au sort. Alors qu'est-ce que dit la Mishnah? Que si dans la main droite, c'était le Hachem, c'est un bon siman. Et tout le monde est content. Ah, dans la main droite, il y a le Hachem. Et la main gauche, la Azazel. C'est un bon siman. Et si c'est le contraire, dans la main droite, la Azazel, c'est un mauvais siman. Pourquoi? Pourquoi la main droite, la Hachem, c'est un bon siman, et la Azazel dans la main droite, c'est un mauvais siman? Pourquoi?
La
hein?
Droite, c'est le Chesed. Donc si la droite, c'est la Hachem, ça veut dire que Hachem sera aussi chesed et il va pouvoir pardonner.
Et si c'est la droite, c'est l'Azazel, c'est l'Azazel et un chesed. C'est bien l'Azazel, le chesed.
Non, mais ça veut dire qu'il nous pardonne par chesed.
Moi, je suis d'accord que l'Azazel me pardonne, hein, car que je suis pardonné.
Parce que le bouc qui va servir au sacrifice, ben lui, il aura, il portera un peu de chesed. S'il est à la droite.
Et bien si dans la droite c'est la Azazel, on va repousser la Azazel avec Chesed, c'est bon.
Le Azazel, il pardonne pas nos fautes.
Le Azazel pardonne pas la faute. Quoi, le Azazel ne pardonne pas la faute? Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Sur quel on fait le vidouille de tous les péchés? Sur la Hachem ou la Azazel? Sur la Azazel. Après, on conduit la Azazel à l'Eretz Gezera. C'est quoi Eretz Gezera? Quoi? Gezera, c'est aride. Un terrain de décret. C'est quoi Eretz Gezera? On envoie la Azazel à l'Eretz Gezera. C'est quoi Gezera? Quoi?
Étranger, non?
Étranger. Gezera, c'est étranger.
Falaise.
Gezera, c'est falaise, Rachid traduit. Pourquoi? Pourquoi c'est falaise? Parce que vous appelez fal. Et vous êtes à l'aise. Donc ça fait falaise. Pas mal. Hein? Pourquoi une falaise, ils appellent Eretz Gezera? C'est quoi Gazer? Gozer, c'est quoi? Gozer. Hein? Coupé. Gozer, c'est coupé. Tu prends un ciseau et tu coupes. Alors la montagne sur laquelle on jette la Azazel, c'est comme ça coupé les Mishnah. Un tsouk. Un truc, paf, coupé comme ça. Et on met la Azazel et il tombe. Eretz Gezera, c'est comme une terre qui est coupée avec un... On dirait que le bon Dieu, il est passé ici avec un ciseau, il a coupé. Comme ça, Rashi traduit. Eretz Gezera. Pour ça, on le jette comme ça. Bon. Et quand on le jette, il y a la laine qui est devenue blanche. Blanche. On prend la laine rouge. D'abord, il y a la laine rouge sur les cornes. Après, la moitié de la laine rouge, on met sur la porte du Beit HaMikdash, et l'autre moitié de la laine, on laisse sur le taureau, sur le bouc, et avant de le jeter, on enlève la laine, et après on le jette. Et au moment qu'on le jette, la chèvre part dans le péché, et la laine devient blanche, et au Beit HaMikdash aussi. Et quand c'était la porte du Beit HaMikdash, la laine, On mettait à l'extérieur ou à l'intérieur? Les gens, ils voyaient quand ça devenait blanc, ou ils n'y avaient pas? Hein?
Ils voyaient, je crois, à
l'intérieur. Comment tu sais? Peut-être qu'ils ne voyaient pas.
J'ai lu.
T'as lu? Tu crois avoir lu? Il croit avoir lu. Et en réalité, il a lu ou il n'a pas lu? Hein? Alors, la Mishnah, alors, la Gemara dit comme ça. À l'époque de Shimon HaTzadik, les premiers 40 ans du Bayit Sheni, Shimon HaTzadik, les 40 ans qu'il était, ou 80 ou 40 ans qu'il était, c'est devenu toujours blanc. Et les Juifs, ils étaient heureux. À partir que Shimon HaTzadik et Niftar, jusqu'à 40 ans avant le Korban, parfois c'est devenu blanc, parfois c'est resté rouge. Et les derniers 40 ans, c'est resté rouge. Hachem n'a pas pardonné. Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan Zakkai a instauré les derniers 40 ans, quand chaque fois c'est devenu rouge? C'est resté rouge. Hein? Il a mis à l'intérieur pour que le peuple ne voit pas. Pour ne pas faire peur au peuple, pour ne pas les déprimer. Maintenant, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que ça représente, le rouge et le blanc? Qu'est-ce que ça représente, la droite et la gauche? Quelle est la différence entre la main droite et la main gauche?
La force.
La force, voilà. Quelqu'un qui a les pieds sur terre. Toi, tu parles de chesed. Ça, c'est une notion kabbalistique. C'est très joli. C'est une notion kabbalistique. D'abord, il faut toujours prendre les choses les plus simples. La droite, elle est plus forte que la gauche. C'est pour ça qu'on espère toujours que le reste est plus que les dînes. C'est pour ça. D'accord. Alors, droite est le plus forte. Alors, l'Hachem 1, il est l'Hachem 1, il est l'Azazel. Qu'est-ce qui représente le Sahir l'Hachem? Qu'est-ce qui représente le Sahir l'Azazel? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il met la main sur quel Sahir pour le charger avec le Averot? L'Azazel. Il met la main sur l'Azazel. Veit vada alav et kol avonotam kol pichem et kol chatotam. Voilà. Les Juifs, ils ont fait ça et ça et ça. C'est tous les péchés qu'ils mettent sur ce saïr. Un petit saïr, il doit porter tous les péchés. Menasa ha saïr et kol avonotam el eretz gezera. Donc le saïr, il porte tout, après il tombe et ça pardonne. Ça, c'est tous les péchés. Et qu'est-ce qu'il porte, le saïr l'Hachem? Qu'est-ce qu'il porte, lui?
Les mérites.
Lui fait les mérites, les bonnes actions. Les bonnes actions, ils arrivent le sang au code des Chokodashim. Et mais c'est aussi la capara. Les bonnes actions, ils ont besoin de capara.
Non, c'est pour le jugement.
Alors pourquoi on jette le sang au code des Chokodashim? Et on est mechaper, c'est marqué le son, il est mechaper, le son qu'on met dans la Kodesh Kodeshim ou sur le Heichal Shaporochet. Et ce sont les bonnes actions. On ne fait pas des vidouilles dessus. Alors qu'est-ce que c'est ça, si c'est des bonnes actions?
Oh, c'était des fautes shogeg.
Des fautes meshogeg. Est-ce que quelqu'un a un fromage? Sur lequel des saïrs on met les fautes meshogeg? Non, pas en français, en hébreu. Voilà.
Kodesh, non?
Non, je parle Kippour, je parle des deux boucles de Kippour. Alors, Beshachat et Tzira Khatat Asher La'am, il fait la Shrita du Sahir de Khatat. C'est quoi Khatat? Un Khatat? Oui. Asher l'âme, vehevi et damo, et me bête la brochette. Il apporte le son, me bête la brochette. Vechiper à la Kodesh, mitumot bene Israël, ou me pichem le chol chatotam. Il fait la kapara de tumot bene Israël, de leur péché, de tout le chatat. Chenia selo el moed. Après, besamach aaron et yadav al rosh aseir achai. Après, il met les mains sur le bouc qui. Vitvada la vet kol avonot bene Israël, vet kol pichem, le chol chatotam. ונותן אותם, היא למתו לפשע לראש הסיר, ושלח ודיתי המדברה.
Alors sur le Azazel, il fait le vidouille de tous les avonot et de tous les pichehem et tous les chatotam. C'est quoi ces trois catégories? C'est quoi avonot et c'est quoi pichehem et c'est quoi le chol chatotam? Qu'est-ce que c'est shogeg? Chet. Qu'est-ce que c'est meizid? Avon. Et qu'est-ce que c'est pichehem? Meizid plus fort encore. Et qu'est-ce qu'il y a pour le Sahir qui rentre? Sha'achat et Sirechat Asherlam, Behevi Adamoel Mibet la Parochet, Vechiper à la Kodesh, Mitum Ot Bene Israël, ou Mi Pishehem le Cholchat Otam. La Tum'a du Pishehem et le Cholchat Otam. Aussi un Kapara. Mais lui, il est Zoché au Kodesh à Kodeshim. Et lui, le pauvre, il tombe là-bas. Quel destin il est plus beau? Kodesh Kodeshim, il est zoché, le sang rentre au Kodesh Kodeshim, c'est plus beau. Pas pour faire une photo peut-être, c'est plus beau de. Avant, quand on le pose là-bas, il regarde, c'est beau, mais après il reste un coup derrière et il tombe. Hein? Pourquoi on fait comme ça? Il arrive, c'est marqué comme ça, ça c'est la montagne, ça c'est le truc. On met la cire comme ça, le derrière ici, la tête ici, comme ça dit le Mishnah, et le coin il est derrière et. Et il tombe d'un coup. Pourquoi on fait comme ça? Il y a mille façons de tuer un bouc. Il est comme ça, il regarde, hein, c'est beau. Et d'un coup, on est là. Et il dépasse les limites. Ça veut dire, ce qui a dépassé les limites, après on tombe. Hachem, il attend. Il a une limite, mais il faut faire attention de ne pas dépasser. Quand on dépasse les limites, ça fait boum. Bon, en tout cas, il y a ici deux destins. Il y a ici deux destins. Qu'est-ce qu'on dit? La Hachem et la Azazel. Et si la main droite c'est la Hachem, c'est un bon siman pour les Juifs. Pourquoi c'est un bon siman? Quand c'est la main droite la Azazel, c'est un mauvais siman. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la différence entre la main? La force. La droite c'est plus fort. Donc si c'est la Hachem dans la main droite et la Azazel dans la main gauche, ça veut dire que quoi? On dirait qu'il y a plus de mitzvot que d'Averot. Il y a plus de gens qui peuvent s'approcher vers Hachem qu'ils vont être. Donc l'équilibre il est plutôt favorable. Donc tout le monde est content. Et si dans la main droite, c'est la Azazel, alors les gens, ils ont peur. Et pourquoi on a besoin de savoir ça au milieu de Kippour? Pourquoi au milieu de Kippour, les Juifs, ils doivent savoir quelle est la situation du jugement?
C'est le jour du pardon.
On peut savoir si on a été pardonné. Et on peut le faire ça le soir. Hein?
Si
ça fait mal, on fait teshuva. Alors dans ce cas-là, il fallait toujours que à droite ça monte, à droite ça monte. Azazel, comme ça les gens ils ont peur, ils font plus teshuva.
Mais on s'en va en avant avec le pardon. Donc quoi qu'il arrive, on est pardonné.
Alors pourquoi ça c'est un bon siman et c'est un mauvais siman? Ça n'a rien avec la mechila. C'est simplement un jeu.
Non,
c'est,
il doit avoir autre chose, je sais pas. Mais, c'est pas avec le pardon.
Peut-être. S'il y a autre chose sans que tu définis, tu as une définition. Pourquoi dans la main droite la Hachem c'est un bon siman? Quand tu mets sur une balance. Et tu vois que on pèse les mitzvot et les averot. Chaque individu du peuple juif. Et s'il y a plus de mitzvot que les averot, on est tzaddik. Si c'est le contraire, on est racha. Et on dit la main droite, elle est plus forte. Quand on pousse une balance, la main droite, elle est plus forte pour vous. C'est-à-dire que si c'est la Hachem dans la main droite, et la main gauche monte en haut, ça veut dire que. Il y a dans le peuple juif plus des gens l'Hachem que l'Azazel. Donc c'est un bon siman. Donc les juifs sont contents. Comme ça dit la Gemara, les gens contents parce que c'est un bon siman. C'est-à-dire, c'est favorable le jugement. Alors les gens sont contents. C'est-à-dire que si dans la main droite c'est l'Azazel,
La main gauche, la Shem, ça c'est mal, c'est mal. Et pourquoi on a besoin de savoir ça au milieu du Kippour? Il dit pour que les gens ils fassent plus de teshuva. Alors pourquoi c'est un bon siman? Alors ils vont faire moins de teshuva.
Parce qu'ils ont moins besoin de faire teshuva.
Ils ont bien fait teshuva.
On a bien fait teshuva, donc on a un siman que c'est bon, et donc quoi? On est quoi? On est joyeux. Et si on est joyeux, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Alors être joyeux, c'est bon. Alors pourquoi s'il y a plus de péchés?
Ben c'est parce qu'il n'y a pas lieu d'être joyeux s'il y a plus de péchés pour faire des choses.
Alors, il y a des situations où vraiment il faut être joyeux quand on est. Quand au milieu de Kippour à midi, ça semble bien. On est joyeux et cette joie, elle va faire quoi?
Va stimuler la teshuva.
Et si au milieu de Kippour c'est mauvais, et le bon Dieu il donne un petit siman, c'est difficile là, il y a un déséquilibre, il y a plus de péchés, alors quoi?
C'est
un choc. Et c'est électrochoc peut-être quoi?
Aussi,
ça c'est stimulé. Alors, qu'est-ce qu'il est mieux de stimuler? Être joyeux ou avoir un choc? Ça dépend de la situation. C'est mieux d'être quoi? Connaître la vérité. C'est-à-dire quoi? Quand on est dans un jugement, vous avez déjà passé dans un truc de justice? Il y a le procureur de la République et un avocat, oui. Qu'est-ce qu'il fait le procureur de la République?
Il déchire.
Il accuse. Il accuse, pourquoi il faut condamner? Et l'avocat?
Il défend.
Et après les juges, qu'est-ce qu'ils font?
Ils délibèrent.
Ils délibèrent. Parfois, avant, et ils sont en train de les réfléchir, avant on laisse encore une dernière quoi? En dernière parole à l'avocat. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose? Ou à l'accusé? On lui demande, vous avez encore 5 minutes à parler. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'avocat qui a encore les dernières minutes à parler? Qu'est-ce qu'il fait? Quel genre de discours il fait? Il y a deux sortes de discours. Quand on voit qu'on est en train de gagner, ou quand l'avocat il voit qu'on est en train de perdre, est-ce qu'il fait le même discours? Quelle différence c'est? Quelle est la différence du ton,
il
de
perd, dans le contenu? Quand il perd, il va dire bon, il va dire pardon, il n'a pas fait exprès. Non.
Et quand on est en train de gagner?
Non,
on n'est pas encore sûr qu'il gagne, mais c'est bien engagé.
Il
continue à croire. Enfoncer le procureur, il a de l'assurance. Et le truc, il voyait bien qu'il est innocent et tout. Il est. Et quand il voit qu'il y a plutôt qu'un. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il fait quoi?
Votre honneur,
quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Pardon,
d'accord, pitié, au moins. Il fait la petite voix. Il fait profil bas. Des fois, avec profil bas, on peut diminuer le truc. Il fait profil bas. Quoi? Et quand on est en train de gagner, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un match? Ils sont en train de gagner avec la main droite. Paris est en train d'enfoncer Marseille. Alors donc au milieu des. Maintenant on va voir l'histoire du rouge et du blanc. Si c'est devenu blanc, la Mishnah nous dit, les Juifs étaient contents. Ouais. Là, Azazel est tombé, ça devient blanc. Ah, Kadesh Baruch Hu, pardon, tout le monde il est joyeux. Et quand c'est resté rouge, les gens étaient tristes. Et pourquoi Kadesh Baruch Hu leur a montré que, pourquoi Hachem leur a laissé rouge? Ils voulaient quoi? Qu'ils prennent conscience que c'est rouge. C'est pas bon, il faut que vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 40 ans avant le Chorban de Beth Amikdash? Ça restait toujours rouge.
Donc, il n'y avait plus de situation.
Et après, les Juifs, ils étaient déprimés. Alors, ils ont caché. Pourquoi
encore ils ont caché. Si Hachem il veut donner un siman, pourquoi on cache les siman?
Puis si, il y a plusieurs fois qu'il a dit.
Hein?
Ça veut dire qu'on est perdu, ça
voilà,
on est perdu, on est paumé.
Ça ne veut plus rien.
On baisse les bras, quoi.
On baisse les bras.
Désespoir.
Un désespoir. Alors pourquoi il existe ce système de laisser rester rouge?
Que s'il y a du blanc. Que si des fois il y a
des périodes où il y a les deux, clairement.
Des fois il y a blanc, des fois il y a rouge, truc. Alors là. On est proche du milieu. Alors là, avant, on est stimulé. Mais quand c'est rose, 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 oh là là, ça veut dire que quoi, hein? La Gemara raconte, il y avait beaucoup de simanim que le Korban il s'approche. 40 ans avant le Korban. Une chose, que la porte, elle s'est ouverte tout seule. Il y avait dans la Zara une porte. Elle pesait des tonnes. Et pour la ouvrir, il fallait quoi? Il fallait la pousser. Et 40 ans avant la Korban, la porte s'ouvre tout seul. On dirait que... Vas-y, Nebuchadnezzar, viens. Vas-y, la porte est ouverte, tu peux venir, tu peux tout casser. Alors c'est marqué dans la Umrah. Rabbi Yochanan Zakkai, il a crié sur la porte. Il a crié sur le Beit Hamikdash. Hé, Beit Hamikdash! Ça veut dire quoi ça, tu ouvres la porte? Mais tu n'as qu'à ouvrir la porte tout seul. Je sais que tu seras détruit, mais avec quel droit tu fais peur aux juifs? Comme ça il a dit. Pourquoi tu fais peur aux juifs? Si un xéra que les vêtements vont être détruits, un xéra, mais tu n'as pas à ouvrir la porte. Pour pas dire aux juifs qu'on va te détruire. Comme ça, Rabbi Zakkai a dit. C'est quoi le sens de ces paroles?
Il
faut pas qu'il est déprimé.
Un peu paralysé.
Tu déprimes les gens quand tu leur
montres
des signes.
Trop.
Trop de signes.
Spécialement, c'est des Tunisiens. Des signes. Hein? Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes que si tu lui dis un danger grave, il est paralysé. Comment il faut faire une guerre? Dans une guerre, un soldat, il doit être encouragé ou découragé?
Encouragé.
Hein? Qu'est-ce qu'il est marqué au Chumash quand on va à la guerre? Qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Nous allons gagner ou nous allons perdre? Hein? Il fait peur ou il enlève la peur? Il fait peur ou il enlève la peur? Al-Tartsouk. N'ayez pas peur. On va les enfoncer les autres. On va les macrabouiller. On va les gagner. On va les massacrer. Vous avez déjà assisté avant un match de football. Qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur dans la demi-heure avant le match? Quand les Bleus jouent contre le Brésil ou n'importe qui, PSG joue contre Monaco. Vous avez déjà, vous étiez jamais dans les vestiaires. Vous avez jamais entendu le discours? Vous avez jamais entendu le discours?
Vous étiez où?
C'est lui qui dit.
J'étais jamais. Mais j'ai entendu comment ça se passe. On va gagner, vous allez massacrer, on va les écrabouiller, on va les gagner, et tu vas tout. Et quand tu as ça, c'est un bon entraîneur. Un entraîneur qui dit. Ouh là là, ils sont forts. Je sais pas. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux, toi, tu es le défenseur. Au milieu de la semaine, il dit au défenseur, si tu joues ce dimanche lors de la semaine dernière, ben on est dans les bons draps, hein? Hein, tu ne fais pas le même truc que la semaine dernière. Ça, c'est au milieu de la semaine. Mais 10 minutes avant le match, t'es le meilleur, tu as le truc. On les a encouragés. Alors, il y a quelque chose. Quand on fait teshuva, comment on fait mieux teshuva? En lui disant tu es nul, ou en lui disant tu es super bien. si j'ai dit sur un voyoutier un super bien, alors c'est bon. C'est bon, je continue. Juste, j'ai nul, t'es un voyou. Et si je lui dis, tu es nul, tu es un voyou. À la fin, il te croit. Moi, je ne peux plus rien faire. Ça veut dire qu'en vérité, faire peur à quelqu'un et vouloir provoquer un sursaut, ces choses-là, ils doivent être mesurées. Être mesurées. Quand on veut allumer un moteur qui est froid, on tourne et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et comme ça, on est sûr que quoi? Que ça ne s'allume plus pendant un demi-heure. Pourquoi? On a noyé le moteur. Ceux qui savent rouler, on a noyé. Et fait encore plus fort avec les trucs. T'as vu les gens, les débutants. Il faut pousser un peu plus fort. Tu te noies encore un peu plus. Toute la chokhma, c'est de savoir quand il faut faire peur et quand il faut encourager. Ce jeu-là entre... Fais attention, toi. Pour lui donner des trucs, fais attention, mais tu es le meilleur et tu vas gagner. Si l'homme d'office, on lui dit de toute façon t'as gagné, de toute façon les autres c'est des nuls, le Brésilien c'est des nuls, vous promenez, vous gagnez. Ah ben il va se promener, il va perdre. Mais quand tu dis les ennemis sont plus forts que vous, on a très peu de chances de gagner. Tu as découragé. Ça, c'est la chokhma. Ça, c'est le chokhma. Donc, si dans la main droite, il y a la Hachem et la main gauche, la Azazel, c'est bien engagé. C'est bien que le peuple sait que c'est bien engagé.
Alors, pourquoi ça... 40 ans avant, il y a eu
Siman Iman? Quoi?
Alors, pourquoi 40 ans avant le Khorban, il y a eu tout ce découragement?
Non, ils ont caché. Enfin, ils ont caché.
Mais avant qu'ils cachent, il y a eu.
Ils se sont découragés, alors enfin, ils ont vite caché. Et Rabbi Tzadok, il a jeûné. Donc Rabbi Tzadok, il a voulu craigner. Et le peuple, il ne fallait pas. La peur est un... Oui. Quoi?
Est-ce que l'inverse c'est bien? Par les 40 premières années, que c'était tout le temps dehors, ils voyaient tout le temps que c'était les personnes vont croire, voilà, je suis bien, c'est bon.
Ils étaient bien, même bien. Okay, ils étaient bien, même temps que Shimon HaTzadik, il était bien, même.
C'est bien de.
Sami et l'Anshe Knesset de Gdola, ils ont géré le peuple juif d'une façon géniale. C'est marqué beaucoup de choses sur l'histoire de Shimon HaTzadik. Toujours les chabonis, la bracha, et le feu, il ne s'est jamais éteint. Il y a beaucoup de miracles les premiers 40 ans. Le peuple juif, il s'est débarrassé de toute la catastrophe qui était avant le Khorban du premier Beit Hamikdash. Les derniers deux siècles avant le Khorban du Beit Hamikdash, les rois corrompus et l'injustice et tout. Et les rois, ils étaient corrompus et les ministres, ils étaient corrompus. Et là, chez Knesset, ils ont remis un deuxième état en marche et vous midu talmidim harbe vasusiak la Torah, ils ont renforcé, c'était très fort les premiers 40 ans, ils ont mis en marche un super système. Après la machine a commencé après la mort de Shimon HaTzadik avec ses enfants etc. En tout cas, ça c'est la chokhma. Il faut savoir, la peur est un bon outil pour piquer les gens, pour qu'ils se réveillent. Mais la peur peut enlever la joie de vivre et le goût de vouloir se défendre. La peur, il faut faire très attention à comment on le manipule. C'est pas manipuler le drapeau de la peur, elle n'est pas à balancer à tous les coups. Il y a un proverbe qui dit la peur, c'est un mauvais conseiller. Qu'est-ce qu'il dit le Kohen avant d'aller à la guerre? Comment il commence le premier mot que le Kohen il dit? Qui a cité le pasouk? Hein? Quel est le premier pasouk que le Kohen il dit dans son discours?
D'abord, celui qui a planté une vigne.
Comment ça il commence?
Celui qui a planté une vigne,
on va vérifier.
C'est l'ordre. L'ordre de l'homme dans la vie. Planter une vigne pour se donner une maison.
Et tu signes. Bien sûr. Hein? Tu signes?
Tu signes le premier. Est-ce que c'est la maison?
Alors, tu vas m'acheter un bien. Ça coûte un pizza là.
C'est la maison en
bas. Il faut payer un pizza.
C'est pas ça. C'est pas ça la question.
Qui était c'est la milchama à l'oeveha? Quand on sort à la guerre contre ton ennemi, tu vois des chevaux, tu tires même, n'a pas peur. Quand vous allez vous rapprocher à la guerre, il leur dit Shema Israël, écoute-moi. Allez, après, n'a pas peur, attirez-vous, attirez-vous, ne vous inquiétez pas. Quels sont les premiers mots qu'il dit aux Juifs?
Shema
Israël. C'est de quoi Shema Israël? Écoute. Bien sûr, écoute. Écoute bien. Pourquoi il dit Shema Israël? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Salomon sur Shema Israël? Hein? Il n'y a pas de Rabbi Salomon ici? Cherchez nos Rabbi Salomon. Merci. Ah, il est 10h30.
Ouais.
Il est 10h30. Bon, on va terminer. Alors, Shema Israël, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shema Israël, afilu ein bachem zuchut ele kriyat shema bilvat, kadai atem sheoshi etchem. Même si vous n'avez pas de mérite que le kriyat shema seulement, vous méritez déjà que Dieu vous aide. Même si vous n'avez pas d'autre mérite, Shema Israël, c'est quoi Shema Israël? On dit Shema Israël le matin, le soir, la mitzvah de dire Shema Israël. Même si vous n'avez que ce mérite, vous méritez déjà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Kohen? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il les encourage en leur disant que quoi? Même un petit schrout, ça suffit. Il aurait pu dire le contraire. Écoutez, si vous n'êtes pas tzadikim, vous allez perdre. Il faut être tzadikim pour gagner la guerre. Si ils font qu'une mitzvah, vous allez perdre. Il faut faire toute la Torah. Il est en train de dire quoi, le Kohen? Un petit peu et déjà Dieu vous aide. À la place de dire, s'il manque un peu, vous allez perdre. Et si vous avez moitié-moitié, c'est pas bon. Non. Même si vous avez que ce route, vous gagnez. Quelle est la politique ici? Que quand tu vas à la guerre, tu dois encourager. Tu dois te battre. Et si un homme, il sait que même si j'ai fait des averot, on va gagner. Après, il dit, ceux qui ont des averot, qui rentrent à la maison. Alors pourquoi au début, il dit, même si tu casses, ce seront des trucs qu'on va gagner.
Si après tout ça, t'as encore peur, alors c'est que...
Si après que je te rassure que tu as peu de serrure, tu vas gagner, combien t'as peur?
Je rentre à la maison.
Alors tu rentres à la maison parce que sinon tu vas décourager tout le monde. Tu vas rentrer comme ça à la guerre, mieux que tu restes à la maison. Peur va décourager. On va décourager les gens. Mais avec peur, la peur, Et il y a un proverbe qui dit c'est un mauvais conseiller. C'est pas pachou de parler de la peur. L'éducation avec la peur, ça peut déstabiliser les gens. Ils ne peuvent pas faire la guerre bien après. Vous connaissez l'histoire avec les balates. Comment ça s'appelle ça? Les carreaux là. Hein? Le carrelage. Vous connaissez l'histoire des carrelages? Combien c'est de carrelages? C'est combien de carrelages à largeur?
Un
sur 20.
Hein? Là, c'est 20 sur 20.
1 c'est 20 sur 20. Et 2 ça fait 40 sur 40. 2 c'est 40. Alors si on veut marcher comme ça d'aller jusqu'à ici sans mettre les pieds à droite, sans mettre les pieds à gauche, on reste toujours sur ces 40. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes capable de marcher vite d'ici, ici, et toujours rester sur 40 cm? Hein?
C'est dur.
C'est dur? Alors essaye de le faire. Sinon, tu payes une pizza. Aussi. Vas-y, essaye. Tu arrives?
Oui,
sans problème. Tout le monde arrive. Maintenant, on va prendre 40 sur 40. On va mettre entre deux maisons. On va dire, vas-y, passe.
Il faut se concentrer.
Et ça servira combien de temps? Je veux te voir, toi. On va mettre à 200 mètres hauteur, ou même à 40 mètres hauteur. Tu vas faire
deux maisons. Oui,
entre deux maisons en haut.
Ah, je croyais d'une maison à une autre par terre.
Non, sur toi.
Même pas un mètre.
Voilà. Tu sais comment ça marche. Les tupis vont marcher comme ça. Ah, il va tomber, après 2 mètres, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il a peur de tomber. Il est un déséquilibré. Après, il veut rattraper les déséquilibres. Et pourquoi tu peux marcher comme ça ici, ici par terre, tu peux?
On
n'a
pas peur.
On n'a pas peur, on marche. On n'a pas peur, on marche, ça marche. La peur est un moyen pour déséquilibrer les gens. Tu dis aux gens, n'a pas peur, tu réussis, réussis. Tu dis aux gens, tu vas tomber. Tiens, comme ça des mamans. Et l'enfant, il est. Des fois, il y a un enfant de 2 ans sur la table. Ah, il dit, tu vas tomber. Et bien, il va tomber. Et si tu restes calme, il ne tombe pas. Et si tu en vends à la masse. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu fais quand t'as un gosse de 2 ans, il est sur la table, tu fais quoi? Il danse sur la table, tu fais quoi? Tu mets des pommes autour de toi pour tomber dans les pommes? Hein?
Je le prends, je le mets dans le parc.
Tu le prends, tu le mets dans le parc, avec 2 fessées. Et si tu restes calme? Insupportable. Bon, ici 2 mètres, mais qu'est-ce qu'on fait s'il est à 2 mètres en terrain? S'il est sur la barrière du balcon? Hein?
Maintenant, il faut être éduqué sur les choses dangereuses.
Hein?
C'est l'éduquer sur les choses qui sont dangereuses.
Oui.
Là, il faut avoir
peur. Non, mais si tu cries, tu lui fais peur, il tombe.
Non, mais c'est là qu'il faut avoir peur, parce que sinon il tombe.
Non.
Alors que là sur la table, on va.
Lui donner un
en tout cas.
Pourquoi qu'il ait peur de la table?
Non, c'est l'histoire. Ici, si tu n'as pas peur, tu passes sans problème. Mais quand on a peur, la peur c'est. Il faut savoir le manipuler. Donc, si on n'a pas besoin de la peur, c'est mieux. Si la chaîne tombe dans la main droite. Il faut que c'est un bon siman. Et c'est pour ça, Erev Kippour. Kippour, on marche avec des habits déchirés ou avec des beaux habits en Kippour? On vient à la choule, des beaux habits ou des habits déchirés?
Des beaux habits.
Hein?
Des beaux habits.
Pourquoi?
Parce qu'on va au tribunal classe.
Et pourquoi on va au tribunal classe?
Donner bonne impression,
mon fait, qu'on a une chance.
Qu'est-ce qu'il dit, Michel? Parce qu'on est sûr que quoi? Que l'un va nous innocenter, il va nous fixer une bonne impression. Alors, bon.